Aujourd'hui, nous recevons le professeur Michel Grésillon. Le professeur Michel Grésillon est agrégé de géographie et docteur d'État. Il est aujourd'hui professeur à l'Université du Maine et chercheur au CNRS en géographie sociale. Il est spécialisé en géographie territoriale et politique et s'intéresse plus particulièrement à l'Allemagne, à l'Europe et aux extrêmes droites en Europe. Ses publications, il a fait de nombreuses contributions à des ouvrages collectifs. Europe médiane, Allemagne, Mittel Europa, dans l'ouvrage Les territoires européens, dilemmes et défis, sous la direction de Violette Ray, édition La Découverte 1998. Une Allemagne, une, dans l'ouvrage Géohistoire de l'Europe médiane, sous la direction de Yves Lacoste, aux éditions Découverte Hérodote 1998. La grande spatialité du vote d'extrême droite en France, dans l'ouvrage Données urbaines 2, sous la direction des professeurs Pumin et Mattei, aux éditions Anthropos Economica 1998. Et puis, deux ouvrages personnels sur de grands sujets dont on va vous parler ce soir sont actuellement en chantier. Professeur Michel Grésillon, c'est à vous.
Merci. Il est parfois dur de refaire le monde tout en devant lutter contre un rhume. Je m'excuse de garder mon écharpe pour ne pas être interrompu par des éternuements. Il faut être prévisible. Repère de l'homme contemporain. Le terme de repère est actuellement d'un usage, je dirais, trop répandu, d'un recours trop fréquent dans le langage commun, pour qu'on ne puisse y voir une expression miroir de notre temps. Nous vivons des temps troublés, mais faut-il aller jusqu'à parler de perte des repères ou bien d'un manque de repères? C'est curieux que chaque fois qu'on emploie le mot repère à l'heure actuelle, c'est toujours dans un sens négatif, la perte, le manque, le brouillage, le flottement, et jamais dans un sens positif, conquérant, nouveau repère. On parle de nouvelles frontières, mais on ne parle pas de nouveaux repères. C'est curieux, et c'est, j'y vois donc le signe de temps troublé. C'est vrai que nos repères intellectuels, commençons par eux, sont amenés à flotter, fréquemment. Encore plus vrai peut-être de nos repères politiques. C'est vrai que les repères sociaux se sont très fortement brouillés du fait, je dirais, des plus rapides et profonds changements structurels que notre société ait peut-être jamais connus en un temps si rapide. Et que dire de la mise en question, sinon de la mise à mal, de ce que l'on entend le plus partout, la perte des repères d'ordre idéologique, moral, éducatif. Sans parler du changement d'échelle des problèmes, sans parler de la rapidité des révolutions scientifiques et techniques, dont celle de l'information et de la communication est la plus ébouriffante. Je me doute bien que vous-même ayez grande envie de parler de la crise des repères, mais je ne traiterai pas moi-même de cette problématique, de cette crise des repères, encore que les 20 minutes après peut-être le permettront. Je pense qu'il y faudrait un débat pluridisciplinaire, mieux, hein, interdisciplinaire, et je me contenterai donc de faire bouger, en quelque sorte, des catégories de pensée que je me propose de travailler avec vous, des catégories simples, très simples, comme le mot repère lui-même, qui est un mot beaucoup plus véhiculé par le sens commun que par les scientifiques et les savants. Or, justement, c'est, à mon avis, le grand intérêt d'un terme comme celui-là, que d'obliger la géographie raisonnée ou la géographie savante ou scientifique de ne pas se couper de la géographie spontanée ou de la géographie du sens commun, précisément parce qu'il s'agit là d'une notion qui est commune à tous et qu'il ne s'agit donc pas de distinguer entre l'école, l'université et la rue et la population et le peuple. Je disais, oui, la géographie elle-même étant, comme le mot repère d'ailleurs, une discipline qui associe l'étude des deux réalités, une double réalité, la réalité concrète, matérielle, ce qu'est un repère, d'abord, quelque chose de tangible, et la représentation. Géographie comme discipline d'une double réalité, une réalité concrète et une représentation qui d'ailleurs ne coïncide pas forcément l'une avec l'autre. Donc, à mon avis, le mot repère est bien choisi pour non seulement s'interroger sur les problèmes actuels de notre société et du monde, mais aussi pour mettre à l'épreuve une discipline qui est quand même bien souvent taxée de traditionnelle et de descriptive. Je disais que pour traiter de la crise des repères, il vaudrait mieux être à plusieurs disciplines ici. C'est pourtant chez des penseurs, et je disais que la géographie, j'allais l'interpeller, c'est pourtant chez des penseurs qui ne sont pas de ma discipline que j'ai trouvé l'impulsion qui me permet d'entamer, comme je viens de le dire, l'examen de la révision des catégories de pensée. Et je vous ai déjà mis un peu à l'épreuve en laissant exposer derrière moi les deux auteurs qui m'ont donné l'impulsion pour venir aujourd'hui ici. Je dois d'abord à Umberto Eco de m'avoir rassuré et de nous rassurer sur le sens d'une quête, de ma quête, celle de savoir s'il y a bien des universaux en matière de repères. Je me permets donc de lire l'extrait du livre d'Umberto Eco qui vient de paraître au mois de mars dernier, pour ne serait-ce que pour ceux qui ne sont pas dans la salle. Dans 5 questions de morale, paru en mars 2000, il s'agissait de savoir, dit Umberto Eco, s'il existe des universaux sémantiques, c'est-à-dire des notions élémentaires communes à toute l'espèce humaine. J'en suis arrivé, dit-il, à la certitude qu'il y a des notions communes à toutes les cultures et que toutes se réfèrent à la position de notre corps dans l'espace. C'est moi qui souligne. Cette sémantique, Umberto Eco est un sémanticien, un sémiologue, est devenue le fondement d'une éthique. Nous devons avant tout respecter les droits de la corporéité de l'autre. C'est moi également qui souligne de l'autre, l'espace et l'autre. Eh bien, voilà, je dirais, le coup d'épaule qui m'a permis d'oser ce que je vais dire aujourd'hui. Déjà, les dernières réflexions au sein de ma discipline avaient permis d'établir ma conviction qu'il y avait bien des universaux également en matière de repères. À la suite d'auteurs, et là, je passe à des géographes patentés. Ah oui, mais nous y voilà. Oui. D'auteurs comme Denis Retailler et Jacques Lévy, qui insistent l'un et l'autre dans leur tout dernier ouvrage, qui date de 1999-1997, qui insistent tous les deux sur un des problèmes premiers et communs à l'espèce humaine, prise dans ses individus aussi bien que dans ses groupes, la distance. Ou comment la traiter? Comment traite-t-on l'autre dans et par la distance? Un des universaux géographiques, c'est-à-dire de ces notions communes à toute l'espèce humaine, à toutes les cultures, comme Umberto Eco le dit, lui, de ces universaux sémantiques, serait donc le savoir penser la distance avec l'autre. Rien que cela. Le réglage de la distance, ça c'est une formule de, de Denis Retailler, que je lis également, pour ceux qui ne sont pas dans la salle. Denis Retailler écrit dans Le Monde du Géographe, presse de Sciences Po, 97. Or, ce qui m'intéresse en géographie, c'est la relation concrète des hommes entre eux et des hommes avec la nature dans leur manière de régler les distances, de reconnaître l'unité ou la différence, le proche et le lointain, la rencontre de la subjectivité de l'intérieur et de l'objectivité de l'extérieur. Ce réglage de la distance, on dit travelling en cinéma, variable selon les individus, selon les sociétés et les cultures, aujourd'hui s'exprime, et là je fais appel à Jacques Lévy, dans ce qu'il appelle dans des jeux de contact et d'écart inédits. Jacques Lévy, dans Le Tournant géographique 99 chez Belin, écrit notamment « L'ensemble des rapports à l'espace que l'on rencontre dans les sociétés humaines tourne autour du couple notionnel, dialectique, le contact et l'écart, en même temps. L'obligation angoissante de se définir librement de nouvelles identités nous engage dans des jeux de contact et d'écart inédits dont nous devons, sous de multiples contraintes, fixer les règles. » Il emploie également le terme de « règles ». On pourrait dire « loi » également. S'il y a de l'inédit à notre époque, eh bien, je dirais que cela doit se traduire en matière de distance, de distanciation, distance concrète, distanciation mentale, entre soi et l'autre. Autrement dit, par un nouveau jeu, je reprends le terme de jeu, dans la recherche à la fois du contact et de l'écart avec autrui, avec les autres. Et qui sait, il m'est venu en employant le mot jeu, qui sait si ce n'est pas ce jeu, J-E-U, au sens où, en matière d'ajustage, on dit qu'il y a du jeu, trop de jeu. Est-ce que ce n'est pas ce trop de jeu dans les repères qui déroute actuellement les esprits en proie au doute sur ces repères? Le deuxième apport dû à Eco est de nous autoriser, de m'autoriser à rappeler que la géographie, traitant fondamentalement du thème de la distance entre les hommes, ainsi qu'entre eux-mêmes et la nature, en tire de là, elle aussi, son fondement et ça peut-être même sa finalité, à savoir un fondement, une finalité éthique. La géographie, science morale et politique, faut-il y insister? Je regrette que Marcel Roncaiolo, la semaine dernière, n'ait pas plus insisté sur cet aspect de la géographie. Un fondement éthique dans le réglage des distances, ça ne vous choque pas l'oreille? Oui, bien sûr, l'éthique et le réglage des distances. Oui. Ici s'exprime une deuxième reconnaissance à quelqu'un qui n'est pas de ma discipline pour l'impulsion trouvée. Un auteur sulfureux, très incisif, mais dont on parlera de plus en plus, un philosophe allemand, après un sémiologue italien, voici un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, est extrêmement incisif et, je dirais, dans son incisivité, m'a beaucoup également apporté. Dans son ouvrage, qui vient également de paraître en mars 2000, qui vient tout juste d'être traduit, et qui s'appelle « L'heure du crime et le temps de l'œuvre d'art » chez Kalman Levy. Et dans ce livre, qui est extrêmement stimulant, dont j'ai donc extrait ces phrases en exergue, je les lis tant qu'à faire. « La porte des temps modernes, dit-il, ça veut dire la Renaissance, la porte des temps modernes n'a pas été la découverte du monde et de l'homme, mais l'établissement d'un lien entre un comportement routinier de l'être humain et le monstrueux. Leur espace à ces hommes qui conquièrent le monde se développe parce qu'ils ont su y inclure de nouveaux espaces, c'est moi qui souligne, dans de nouvelles routines de l'emprise hors de leur propre espace. C'est encore moi qui souligne. Et cette phrase, qui m'apparaît pour moi aujourd'hui la plus importante, parce qu'on dit toujours, mais qu'est-ce qu'on est en train de perdre? C'est bien au milieu, c'est le milieu qu'on perd, d'où l'on vient. Eh bien, dit-il, non. Ce n'est pas la perte des milieux, du milieu qui constitue le traumatisme mental des temps modernes, mais la perte de la distance avec les autres. Très curieux, je souligne moi les autres, c'est moi qui souligne les distances. Très curieux qu'un sémiologue, Umberto Eco, et un philosophe, Sloterdijk, ils ne parlent pas de repères, mais ils traitent de la même chose, de la distance et des autres. J'étais donc bien lancé en tant que géographe pour aller plus loin et m'inspirer de ces apports importants. En effet, sans eux, peut-être que j'aurais bien risqué d'être aussi routinier avec ma géographie que le comportement qu'ils dénoncent. Quoi en effet de plus routinier que les lieux communs émis à propos des temps qui changent ou ne changent pas, des temps qui changent trop vite, sur un plan technique, sur un plan social, ou pas assez, ou pas du tout, sur un plan politique ou sur un plan moral, par exemple. Que de truismes aussi sur les phénoménologies à contenu spatial, où les appréciations sont si souvent formulées sur le mode d'assertion, comme, j'en cite comme ça, vous avez déjà entendu, et peut-être même, on a tous des racines. On ne peut pas vivre sans racines. La Terre n'est qu'un jardin planétaire. Et qui peut-on si c'est mondial? Comment peut-on ne pas être pour l'Europe? Ou encore, le progrès, c'est l'uniformité, ça uniformise tout le progrès. Et last but not least, un éminent ancien Premier ministre, dans un ouvrage sur la tolérance, il faut prendre l'habitude des différences, et donc de la tolérance. L'entreprise de Sloterdijk a ceci de salubre qu'elle déniaise. Mais elle a surtout le mérite, pour moi, de déplacer, pour ce qui nous concerne, le diagnostic sur le mal des repères en le situant moins dans la perte des milieux que dont nous sommes que dans celle de la distance à l'autre. Distance à soi, distance à l'autre, ainsi posée, la problématique des repères suscite deux questionnements. Un, qu'est-ce qui s'exprime aujourd'hui chez les individus? Deux, et qu'est-ce qui, dans les supports objectifs qui soutiennent les repères, est opérant ou pas, est obsolète ou devant être révisé pour comprendre la réalité du monde actuel et s'y ajuster, que ce soit pour l'accepter ou pas. Quêtes individuelles des repères d'abord. Les étudiants sur lesquels ont porté nos enquêtes, je vous signale qu'ils ne sont pas tout à fait représentatifs de la jeunesse française, puisqu'il s'agit d'étudiants et en province, confirment à 95% le besoin de repères. Quand on leur parle de repères, ils disent oui, c'est vrai, on en a besoin. On ne peut pas vivre sans repères. Tout en faisant observer, pour presque la moitié d'entre eux, les limites à ce que trop d'attaches peut avoir pour l'expression du libre-arbitre, d'un libre-arbitre, leur libre-arbitre. Ils font aussi valoir que le besoin de repères concerne à leurs yeux deux grandes catégories de population, les jeunes, d'abord, eux-mêmes donc, en premier, et les personnes en difficulté de tous ordres, social, économique, psychique. Le sentiment d'appartenance auquel ils font référence est d'abord celui du groupe. Le lien de loin le plus évoqué à 75% est ensuite la famille et en second lieu des catégories socio-spatiales. À cette question, précisément, de leur catégorie géographique d'appartenance, celle à une ou à deux échelles est la plus énoncée, au sein de laquelle les appartenances nationales et régionales sont de loin les plus citées, les autres l'étant dans la plus grande dispersion. Ce n'est que dans les réponses à plus de deux échelles d'appartenance que l'Europe apparaît citée de manière significative, soit à partir de trois échelles, alors que le monde, comme appartenance, ne l'est significativement cité qu'à partir de quatre échelles, c'est-à-dire très rarement. Au total, les appartenances référentielles aux échelles nationales ou régionales, voire départementales, les plus citées, le sont dans, sans commune mesure avec les échelons soit inférieurs, le local, soit supérieur, européen et mondial. Ce qui signale, faut-il le remarquer, la prévalence des identités collectives historiques qui aujourd'hui ne se positionnent pourtant qu'aux échelles moyennes de l'existence de l'être au monde. Aux deux extrémités géographiques, donc, insistons sur le fait que tant le niveau local que les niveaux supranationaux sont donc défaillants dans les consciences d'appartenance des jeunes d'aujourd'hui. Plus discursivement et de manière plus générique, on peut résumer la réponse aux repères chez les jeunes enquêtés par l'accent qu'ils mettent sur un double fait, celui de micro-appartenance, changeante ou volatile à l'occasion, associé à l'existence d'une sorte de socle, entendu comme référence ou point d'appui, un peu vague. Mais quand on les fait parler, ça devient plus précis et on retrouve des lieux communs. Appartenance et socle, un territoire personnel d'affiliation donc associé à des réseaux d'élection, comme on dit des territoires d'élection. Rien d'autre, on le voit, que la double manifestation de la conscience et de la projection de soi, comme il en fut de tout temps. Question, la question de notre immersion dans l'humanité et dans le monde, quelque chose qui non seulement ne surprend pas le chercheur en géographie, habitué à associer la connaissance topographique, celle familière du contenu des lieux et des territoires, au savoir topologique, ceux du discontinu des réseaux. Topographie, topologie, territoire, réseau. Continue, discontinu. Mais cela aujourd'hui prend une dimension nouvelle du fait des nouvelles formes d'accès au monde. S'il y a en fait, là je n'apprends rien, une propension dans le discours actuel contemporain, c'est bien cette affirmation des individus à être individus, c'est-à-dire à s'appartenir, à distance des allégeances traditionnelles, à être le plus soi-même hors des moules préétablis. L'autre manifestation de l'être d'appartenance, quand il s'exprime par des affects lors des rencontres festives collectives, sportives, etc., artistiques, ne doit, à mon avis, pas être considéré comme antagoniste de l'affirmation individualiste principale, mais comme l'expression d'un lien maintenu avec le background mental de l'individu, quelque chose comme le socle arrière dont parlent les étudiants et que chacun emporte peut-être avec lui, un socle arrière pour aller de l'avant. Aller de l'avant, aujourd'hui, ça passe par l'Internet, disons. Technique autorisant instantanéité et ubiquité. Qu'avec la technique, le temps soit devenu de l'instant, d'accord. Mais quid de la distance? Cette distance critique qui est la condition d'existence du sujet et qui, pour nous, est et reste la dimension majeure du problème, du sujet. Si l'Internet permet de croire en une abolition du temps de la communication, le monde en est-il rendu plus petit? Qu'en est-il dans la conscience? Faute d'études empiriques encore suffisantes, contentons-nous de faire remarquer l'ambiguïté de la posture des internautes. En effet, si les médias simultanés ne font disparaître les discontinuités qu'artificieusement, ils n'en véhiculent pas moins un esprit de conquête du monde. Avec le danger que décrit Sloterdijk, quand, et là je le cite à nouveau, avec cette équivalence insouciante dont nous produisons et reproduisons la Terre et le globe dans le même esprit, quand tout ce qui est étroit, local, attaché au sol est libéré dans l'universel, dans le détérioralisé, bien sûr, c'est un processus toujours très difficile, la détériorisation. Je préfère dire, pour terminer avec Sloterdijk, dans la terre promise de partout. Là, ça coule. La véhémence de Sloterdijk trouve sa colère dans les routines de l'expansion, c'est-à-dire dans cette même propension de l'être à conquérir de nouveaux horizons de faisabilité, c'est de lui encore, aux mêmes fins de domination, de prédation, de perte de distance des autres. Comment nous-mêmes, dans notre recherche, ne pas être prisonniers des mêmes dispositions mentales dont on vient d'établir la critique ? Eh bien, il apparaît que ce n'est pas de nouveaux concepts dont on a besoin, à mon avis, en matière de rapport de l'homme au monde, mais d'un travail de renouvellement sur ce qui existe déjà, comme le mot repère, comme l'appartenance, comme la proximité, comme la distance. Autant de notions très simples, universelles, que tout le monde, sur lesquelles tout le monde peut avoir à dire et à livrer ses expériences. Réfléchissons donc un tout petit peu à l'intérieur de même de la notion de repère, par exemple, où tout se croise dans un repère. Cette notion est suffisamment riche et complexe comme catégorie utile pour juger de soi et du monde. Et comment le faire pour que les catégories proposées soient accessibles à tous, que les valeurs impliquent tous les citoyens, ainsi que la géographie, en tant que discipline formatrice à tous les niveaux d'un cursus obligatoire en France, en a les moyens. Ce sont des mots simples qu'il faut retravailler. Exemple, appartenance. Le mot-clé, aujourd'hui, devient pluri-appartenance. Il s'applique autant à l'individu qu'aux montages institutionnels existants. Il implique ce mot, cette notion, cette réalité. Cela implique un pluriel de situations à la carte, au plan institutionnel, comme un pluriel identitaire au plan individuel. Cela permet en tout cas, s'il n'y avait que cela, la notion de pluri-appartenance. Ça permet de dépasser, par exemple, ce vieux principe du tiers exclu, selon lequel on ne peut être deux choses à la fois, ou que l'une étant A et l'autre B, on ne peut chevaucher A et B. Autrement dit, depuis Aristote, cette impossibilité de chevauchement qui est si sensible aujourd'hui avec les emboîtements ou les englobements d'échelle de plus en plus nécessaires à tout niveau, qu'ils soient supra- ou infranationaux. Cela voudrait dire que cet impossible chevauchement bornerait l'être à son lieu. Et selon ce vieux principe, je pense que rompre avec rompre avec le de deux choses l'une, en matière d'appartenance et d'implication, représente certainement une révolution mentale plus considérable qu'il n'apparaît à simplement le dire. Mais la pluriappartenance implique plus qu'une disposition d'esprit ou qu'un dispositif institutionnel. Une démarche, une dynamique menant à de nouvelles combinatoires et que l'on résumera dans la formule très simple du proche en proche. Tellement nécessaire en matière d'écologie aujourd'hui, tellement nécessaire en matière de coprésence, je ne parle plus de coexistence pacifique, parlons de coprésence des sociétés et des États et des êtres entre eux. Nul n'a peut-être mieux rendu compte de la démarche du proche en proche en mettant l'accent sur le fait que l'échelle des distances peut parfois être aussi une échelle des valeurs que Montesquieu, l'homme des Lumières. Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. Il n'y a pas que Sloterdijk qui parle de crime, déjà au XVIIIe siècle. Quoi de plus définitif que cette phrase admirable ? Eh bien, oui, définitif n'étaient les régressions auxquelles l'histoire parfois nous convie, ainsi qu'en témoigne l'exact contre-pied emprunté par Jean-Marie Le Pen quand, à plusieurs reprises, il usa de sa métaphore familière, mes filles avant leurs cousines avant les voisines avant... Bon, continuez. Une même démarche, de proche en proche, peut donc aboutir à des choix totalement opposés, qui dépendent du principe de départ, l'autre, le rapport à l'autre. Ainsi, dans un cas, Montesquieu, l'un précède par englobement progressif pour une issue trouvée par le haut, tandis que l'autre, dans l'oubli qu'englober n'est pas contenir, Jacques Lévy, aboutit par le bas, au terme d'une érosion régressive, de l'autre à distance de plus en plus affirmée des autres, conjointement à l'hyper-particularisme de soi. Pluriappartenance, opposée à mono, monobloc, monolithique, interdépendance interactive, mieux encore que multimédia, et que transnational. Autrement dit, un nouveau lexique, une nouvelle grammaire du monde, où l'avenir se lit dans les préfixes. Ce n'est certes pas vouloir la mort des catégories fixes, historiquement établies, comme la nation, la région, une capitale, Paris, Jérusalem, que d'envisager leur adaptation au changement du monde en même temps que leur dynamisation par l'accent mis sur les préfixes qui actuellement se multiplient. La révision des concepts n'est pas affaire seulement de lexique ou de grammaire, elle est aussi affaire de morale. Je ne sais pas s'il faut privilégier le sens des mots ou le sens de la morale. Est-ce que ce n'est pas Jean-Luc Godard qui disait que même pour un travelling était une affaire de morale ? Quand il s'agit de faire bouger les concepts, ou quand il s'agit, tâches pratiques, politiques et morales, d'analyser par exemple, ce en quoi je me suis un peu spécialisé, un mal d'Europe très actuel, l'extrémisme de droite. Traitons-le comme un mal, ce que j'appellerais la monoscalose, et tant mieux si aujourd'hui on crée un néologisme. La monoscalose, autrement, le mal de l'échelle unique de soi, l'échelle unique de soi. L'épidémiologie de ce mal, la monoscalose, le mal de l'échelle unique de soi, est très éclairante. Dans tous les cas de figure, français, autrichien, danois, et même pour la démonstration, brandebourgeois, la géographie du vote d'extrême droite est la même. Un vote surtout de périphérie, aux deux échelles. Alors, est-ce que ça va donner ? C'est vous qui réglez, non ? Non. C'est bon ? C'est parce que je n'ai pas mes lunettes. Quand c'est blanc, moins de 12% de vote d'extrême droite, c'est-à-dire Paris. Et quand c'est noir, c'est plus de 25%, c'est-à-dire que ça varie du simple au double. Et peut-être que vous voyez que tout là-haut, à Noyon, on vote à 35% pour le FN, que c'est également à plus de 30% à l'ouest qu'on vote à Dreux, et dans le sud également, on vote à 39% dans le nord du Loiret, à Desmonts, comme également dans la Seine-et-Marne, où l'on atteint des votes supérieurs à toutes les banlieues parisiennes, c'est-à-dire à plus de 25%. Donc, plus on va loin de l'aire urbaine de Paris, et plus on vote extrême droite, selon un gradient qui est complètement continu. Et quand on va à Lyon, on a exactement la même géographie. Lyon, 12% pour l'extrême droite. Par contre, à Villefranche, au nord, 30%. Et dans la banlieue, dans la plaine, à l'extrême est de l'aire urbaine de Lyon, également 30%. Région parisienne, région lyonnaise. Marseille, je ne vous apprends rien. Marseille, centre, 20 et quelques pourcents. Mais Marignane et Vitrolles, 30 à 40%. Donc à chaque fois, on passe du simple au double. Entre les deux, Marseille-Nord, 30%. Lille, Roubaix-Tourcoing, exact, pareil. 15 à 20% à Lille, 20 à 25% à Roubaix, et enfin, plus de 25% à Tourcoing. Toujours, plus on s'éloigne du centre de l'aire urbaine. Pareil en Alsace. 17% à Strasbourg, 24% en banlieue, et puis beaucoup plus loin, 25% à Saverne, 30% à Bitche, etc., plus à Bichevilleur. Dans le Loiret, idem, Orléans, 12%, Loiret Est, 22%. là, on perd du temps, évidemment, dans les manipulations. La vérité française se retrouve au Danemark. Et là, c'est encore beaucoup plus éclairant, puisque le vote d'extrême droite au Danemark exprime exactement ce que je disais, aux deux périphéries, la périphérie de Copenhague et la périphérie du pays, c'est-à-dire dans, au nord du Jutland, et un petit peu à la frontière allemande. Voilà. Double périphérie, exprimée très bien par la géographie danoise, et les chiffres au Danemark étaient moins importants qu'en France, mais c'est la même géographie. En Autriche, les chiffres battent tous les records, mais c'est également toujours la même géographie. On vote beaucoup plus dans le Vorarlberg et dans Carinthie qu'à Vienne. À Vienne, 25%, et encore moins dans les régions entourant Vienne, où ça n'est, on n'est qu'à 20%. Mais par contre, en Carinthie, 39%, et dans le Vorarlberg, 30%. À chaque fois, on passe aussi dans des proportions qui montrent qu'il y a bien deux géographies à l'œuvre. Et pour terminer, démonstration, même si là les pourcentages sont extrêmement faibles, mais c'est déjà encore la même géographie dans le Brandebourg et à Berlin, où là on ne vote qu'à 3% à Berlin ou à 4% à Cottbus ou à Potsdam, eh bien on atteint trois fois plus à la frontière polonaise du Brandebourg. C'est assez troublant, cette géographie systématique qui se retrouve à peu près partout. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'au niveau micro-géographique, là le phénomène est bien connu, mais tout aussi troublant, au niveau micro-géographique, ça n'est pas dans les communes où il y a une présence d'immigrés que l'on vote le plus pour l'extrême droite. C'est dans des communes plus éloignées, plus proches ou plus lointaines. Tout dépend de ce qu'on pense de la distance. Tout se passe comme si, vous comprenez comme le concept de distance est pertinent, pour comprendre même une géographie mentale. Tout se passe comme si la mise à distance volontaire par le choix du lieu de résidence, pour des catégories qu'elles soient aisées ou modestes, dans le cas de l'extrême droite, se chargeait d'un sentiment de crainte, d'un fantasme à partir de cette proximité réelle ou supposée. Ce sentiment ou ce fantasme ne pouvant trouver leur exutoire que par la sublimation ou la transcendance dans le seul horizon qui vaille pour garantir une territorialité protégée tous azimuts, et la seule qui historiquement fait ses preuves, l'horizon national. L'extrémisme de droite est bien un extrémisme refoulant de ces catégories de pensée jusqu'à la perspective d'une coprésence, forme qui pourtant peut n'être que primaire, comme le multiculturalisme dans la manière de juxtaposer et non de laisser une interpénétration entre les peuples et les populations. Même si le vote d'extrême droite n'affecte que des pays de taille modeste, à l'exception de la France, qui pleure sa grandeur, le fait que les territoires concernés, qu'ils soient de statut national, Autriche, Danemark, France, Norvège, Suisse, ou de statut régional, Flandre, Lombardie, Vénétie, Alsace, Provence, Côte d'Azur, aient en commun deux éléments, être très prospère et être très jaloux de leur particularisme, cette conjonction d'éléments autorise à insister sur le caractère monoscalaire de cette compulsion xénophobe qui atteint certaines catégories de leur population. Le syndrome d'une peur de la perte se traduit par une velléité de distanciation radicale et maximale à l'égard de toute perturbation extérieure, d'où qu'elle vienne, à la fois verticalement l'Europe, la mondialisation, ou latéralement certains voisins et les immigrés en général. L'extrémisme de droite actuel, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il représente bien pour moi un cas d'école qui sert de limite témoin pour stigmatiser ce mal de l'unique repère de soi. Pour les problématiques de repère en termes poser les problèmes en termes de repère, comme je viens de le faire, permet de les traiter de manière beaucoup plus générale, beaucoup plus générique, plus universelle, plus qu'en les distinguant dans l'éclectisme des nationalismes, régionalismes, populismes, intégrismes. Et ça permet de traiter de la question à toutes les échelles, quartier, ville, région. Même si la définition des repères n'est qu'une composante de ces courants d'extrême droite. Cela permet de mettre l'accent plus sur l'espace, et peut-être même plus sur l'espace que sur le temps. La compulsion monoscalaire, par exemple, est-ce que ça a à voir avec l'Europe, avec la mondialisation? Sans doute. Mais la conception de l'espace, c'est-à-dire appropriation ou partage, est aussi à prendre en compte. C'est bien de territorialité qu'on voudrait voir comme des invariants, invariants au changement du temps et des échelles, dont il s'agit dans les cas des seuls et uniques repères de soi, à rebours de la multi-appartenance. Parmi les notions simples que la modernité commande de retravailler, accordons encore quelques attentions pour terminer à frontières et à proximité. Les deux notions peuvent être traitées ensemble, la proximité constituant le premier segment de la distance qui me distingue de l'autre, qui m'est familière et qui entre dans mon champ donc de connaissance, en deçà ou au-delà d'une frontière. Que faire de cette frontière ? Le paradoxe des temps actuels, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la modernité, c'est qu'il est devenu plus facile d'imaginer, de plaider en certains domaines pour un monde sans frontières que pour un monde sans repères. Or, peut-on faire l'un sans l'autre ? Il n'est peut-être, là je vais être un petit peu rapide, mais enfin, le sens de la formule au moins restera, il est, à mon avis, peut-être pas très adéquat d'en appeler, selon une formule que vous connaissez tous, le village planétaire. Cela sous-tend un indifférencié d'échelle trop séducteur pour être suffisamment respectueux des singularités et des cultures du monde. Or, un séducteur n'est pas toujours respectueux. De même, convient-il d'être circonspect, je pense, malgré tout le bien que j'en penserais en a priori, à l'égard des revendications proclamées, mais trop vite réductrices, comme quand elles se font volontarisme, comme cosmopolitisme ou métissage. Parce que je crois que les proclamer, les réclamer, c'est vite brûler les étapes et c'est peut-être même confondre les fins et les moyens. Et s'il faut penser frontières, cessons de les penser en termes qui cloisonnent, mais plutôt en termes d'interface. Le changement de contenu entre frontières et interface s'accorde alors avec l'ensemble de la démarche que je vous ai exposée. Elle s'accorde avec le couple notionnel contact-écart qui sert de règle à la distance entre moi et les autres, entre les autres et moi. Elle s'accorde avec la pluri-appartenance dont on a fait une vertu contemporaine cardinale. Avec la démarche de proximité qui en découle, cette démarche de proche en proche, qui relie le local au mondial, le moi au monde, soi à l'autre, l'horizon à l'horizon. Conscience et horizon, je pense que ça devrait être la géographie enseignée à tous les niveaux, leçon de choses, leçon de l'autre, leçon de soi. En ayant travaillé ces mots très simples, je pense qu'on pourra peut-être mieux alors aborder ensuite les phénomènes qui s'imposent encore par trop, par surplomb, pire, par injonction, les maillons encore faibles de nos appartenances, de notre pluri-appartenance, et les vrais déficits identitaires, l'Europe, le monde. On osera ajouter que la conquête de l'espace, la conquête de cet espace-là, ne fait que commencer. Il me reste 5 minutes.
Voilà. Non, c'est très bien comme ça. On aura plus de temps pour les questions comme ça.
Je peux quand même donner un post-scriptum, du coup.
Bien sûr. Allez-y.
Post-scriptum. Le libellé de ma conférence comportait une ribambelle de mots, trop pour un seul homme. Et vous aurez remarqué que je n'ai cité qu'une seule fois à la fin le mot identité. Identitaire. Deux fois le mot réseau. Un peu plus de deux fois le mot territoire. Pas une fois le mot paysage. Quelques fois le mot culture. Alors, je vais me faire traiter d'hors sujet. Mais alors, on s'attendait plutôt à un bon. Non, je pense que. Ce matin, écoutant France Culture, quelqu'un qui m'a précédé ici, cette personne plaidait pour la psychologie, et disait il faut accepter d'être offensive,
Eh bien, j'ai choisi d'être offensif également pour la géographie. Et c'est pour cela que je me suis plutôt concentré sur des mots simples comme repère, appartenance, distance, conscience. Je croyais que c'était encore écrit. Je vous renvoie, en bon chercheur, à ma bibliographie, les deux ouvrages des deux non-géographes Sloterdijk et Eco, petit livre pas cher, moins de 100 francs, qui viennent tout juste de paraître. Sloterdijk est prévu de venir ici. Le livre d'un pas cher, mais pas connu parce que le diffuseur n'est pas un grand diffuseur. C'est un des meilleurs livres que je recommande pour la géographie devienne enfin pertinente, populaire, offensive. C'est le livre de Denis Retailler qui est paru aux presses de Sciences Po il y a 2 ans, qui s'appelle Le Monde du géographe. Il n'y a pas que les géographes, ni les sémiologues, ni les philosophes pour parler de la distance, des rapports, des repères. Il y a également des sociologues qui, eux, n'hésitent pas à employer le mot repère, à nous piquer, à nous, géographes, le mot clé. Les nouveaux repères de l'identité collective en Europe, paru chez l'Harmattan, récemment également, et on apprend des choses intéressantes. Je termine aussi en vous signalant, c'est encore également tout frais, je viens de le découvrir presque en venant, pour ceux qui s'interrogent sur les rapports tout à fait contemporains entre l'individu et les institutions au niveau mondial, il y a un excellent article d'un chercheur canadien, « Comment gouverner le monde » à la dernière page du Monde diplomatique de ce mois-ci, de mois d'avril, où les choses sont extrêmement bien résumées. Je termine en disant que, évidemment, les idées que j'ai exprimées doivent avoir une retombée sur un plan pédagogique. On ne devrait plus enseigner les choses en termes cloisonnants et en laissant croire, par exemple, qu'un territoire s'est fait sur lui-même, avec ses propres ressources, alors que probablement il s'est fait largement autant dans les rapports avec les voisins, que ce soit en histoire ou en géographie. Et maintenant, le repérage a été fait, comme en cinéma, le repérage s'est fait pour que les acteurs ensuite s'expriment, à vous la parole. Voilà, nous sommes tous acteurs.
Il y a 2 micros dans la salle, donc vous levez le doigt et on va vous apporter. Oui, monsieur.
Comme ça ?
Oui, ça marche. Ouais.
Ça sera juste une petite chose. Il me semble que les extrapolations que vous faites de la cartographie autour des villes sont dues notamment à un problème d'extension ratée, d'impasse. Et il me semble que le territoire de l'impasse est certainement un sujet de réflexion. Parce que dans la nature, il n'existe pas d'impasse.
C'est moi qui suis dans l'impasse. Je l'avoue. La formule est excellente, mais je ne vois pas le rapport entre les territoires... où il s'avère qu'il se passe quelque chose à la périphérie des périphéries, qui peuvent apparaître pour les gens qui ont fait le choix de s'éloigner de la ville pour vivre tranquille, que ce soit dans le New Jersey, à Saint-Nom-la-Bretèche, ou dans Carinthie, qui ont fait ce choix-là, donc d'une distanciation avec, quelquefois pour des raisons tout à fait matérielles, pour des raisons de loyer, et qui ont donc investi et qui se retrouvent dans une impasse en découvrant que la vie sociale est nulle, que les transports sont coûteux, et puis qu'on se désocialise, et puis qu'en plus, etc. Bref, je crois que ce qu'exprime la géographie d'extrême droite dans la plupart des pays que j'ai étudiés, c'est précisément la prise de conscience qu'on est dans une impasse. On a fait un choix d'écart, de non-contact, et on le paye cher. On le paye cher parce qu'on n'arrive plus à payer son accession à la propriété. En termes de sociabilité, c'est nul. Et pour les enfants, on a que des problèmes. Et en plus, on craint pour le peu qu'on a acquis patrimonialement. Bon, c'est-à-dire le phénomène qui se déroule aux États-Unis, des villes fermées, loin des autres, avec le plus grand écart et sans contact, à mon avis, est un terrain d'extrême droite et en même temps un terrain d'impasse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre observation.
Bonsoir, monsieur. Je suis très sensible à vos idées. Je suis statisticienne dans une administration et à voir vos cartes, je vous signalerai que si vous faites les mêmes cartes de Paris sur l'insécurité ou les cartes sur le chômage, vous obtiendrez le même résultat. Il y a plus d'insécurité rapport à la population dans la troisième couronne que dans la deuxième couronne et dans la deuxième couronne que dans Paris. Si vous faites la carte du chômage, vous obtenez les mêmes chiffres. Donc moi, je ne peux pas vous faire une étude philosophique sur la distance, mais je constate un rapport quand même d'exclusion de l'activité centrale qui se retrouve culturellement, professionnellement dans les centres-villes, avec une exclusion vers des périphéries qui ne peut peut-être pas toujours choisie, ni voulue, mais subie des fois. C'est mon impression de statisticienne, hein, pas de philosophe.
Je vous remercie pour le philosophe que vous m'accordez. Ce n'est pas parce que je ne vois pas en quoi parler du mental, des pensées, des idées, du vote serait de la philosophie. Bien sûr que c'est de la philosophie, mais bon, est-ce que la statistique n'a pas à faire avec la philosophie? Est-ce qu'il n'y a pas une philosophie des statistiques aussi? Non, moi je pense que c'est un petit peu mécanique, votre statistique aussi. Il faudrait maintenant discuter pièce à pièce, hein, de très près. Moi je ne pense pas qu'à Noyon ou qu'à Dreux, il y ait plus d'insécurité qu'en Seine-Saint-Denis, et pourtant on vote beaucoup plus pour le Front National à Noyon, à Dreux, dans le nord de la Beauce, que dans Seine-Saint-Denis. Parce que là, on vit les choses au contact, et elles font peut-être moins peur, ou en tout cas, on a une philosophie qui peut-être est plus élaborée que quand on est hors contact et qu'on ne vit que dans l'écart. C'est pas ma philosophie, c'est... Bon. Mais il faudrait voir pièce à pièce. Et en tout cas, les paramètres, sentiment d'insécurité ou insécurité réelle et chômage sont d'autres paramètres que moi, celui que j'ai fait avec la présence d'étrangers ou d'immigrés.
Oui, monsieur.
Oui, bonsoir. Je voudrais m'adresser beaucoup plus aux spécialistes des extrêmes droites européennes qu'aux chercheurs en géographie de façon générale. Les partis d'extrême droite en France, comme ailleurs, sont financés par les gouvernements en place, qu'ils soient de la droite dite parlementaire ou de gauche. Ces mêmes gouvernements en font en même temps leur cheval de bataille. Ils les combattent, les diabolisent et les persécutent. Cependant, le combat acharné entre guillemets contre les extrêmes politiques ne semble pas très sincère. La question que je me pose et que je me permets de vous poser, c'est de savoir pourquoi on finance les tenants de la xénophobie avec l'argent du contribuable pour ensuite les diaboliser. Ne faut-il pas les frapper d'interdiction ou alors les considérer comme tous les partis politiques légaux, à moins bien sûr que cette interdiction ne fait pas l'affaire des gouvernements et que la présence de l'extrême droite dans le paysage politique constitue un fonds de commerce permanent pour les systèmes politiques en place. Merci.
Moi, je ne vous remercie qu'à moitié pour cette question parce que... Je n'ai pas de réponse à votre question directe. Par contre, en tant que spécialiste, moi, je m'intéresse au terrain propice à. Et je pense que, je ne dirais pas que s'il n'y a pas d'extrême droite, il faudrait l'inventer. On peut effectivement interdire un parti, mais l'idée d'extrême droite, la mentalité, elle existe et elle prend sa source dans des historiques, dans des historicités. Il y a un point commun entre l'Autriche, la France, le Danemark. Ce sont des pays qui ont perdu leur empire, qui ont perdu leur grandeur Et il y a des points communs entre l'Alsace, etc. Ce sont des régions qui ont vécu des traumatismes, des défaites, des occupations, et où les choses ne sont pas nettes, ne sont pas claires. Donc, moi, je préférerais que vous nous conviez à réfléchir un petit peu plus sur le terreau historique qu'est le ressentiment, qui est le mental commun à toutes les extrêmes droites, le ressentiment. Et le ressentiment, ça concerne, je dirais pas presque tous les peuples du monde, mais beaucoup de peuples dans le monde, parce que qui ne peut pas balayer devant sa porte, parmi les peuples du monde, voire midi à sa porte, oui, il y a encore beaucoup à faire, même pour l'histoire de nos élèves et de nos étudiants. Donc moi, monsieur, je réponds que ce qui nous intéresse, c'est que même si les partis sont interdits, il restera des terrains propices, il restera des terrains historiques, le ressentiment, et des terrains de mise à l'écart maxima. Il n'y a pas besoin de... Bon, j'arrête. Merci.
Oui, monsieur.
Je voulais vous parler de deux points qui sont en fait un seul point. Évidemment, vous parlez de l'homme, c'est clair, c'était votre sujet. Mais quand on parle de l'homme, je me demande s'il ne faut pas quand même faire un peu appel au biologique. Et il y a des notions chez l'animal, et probablement chez l'animal que nous sommes, la notion de territorialité. Bon, c'est un premier point. Quand, à un moment donné, vous avez parlé de la disparition des idéologies, je me demande si la disparition des idéologies ne vient pas du fait que les idéologies qu'a connu, disons, ma génération, on a vu là où elle menait. Et que finalement, les idéologies sont, à mon sens, à proscrire totalement et ne peuvent mener à une éthique. Quant à l'éthique, dont vous avez également parlé, eh bien, elle a sa base aussi chez l'animal, je pense. C'est-à-dire qu'ils ont des lois entre eux. Il y a d'ailleurs forcément, puisqu'il faut qu'il y ait, du moins qu'il y a des rapports entre animaux, il faut qu'il y ait, notamment entre animaux sociaux, il faut qu'il y ait des lois et donc une éthique, enfin l'équivalent d'une éthique. Voilà.
Je ne vous contredirai en rien. Je vous renvoie alors effectivement, et tant mieux s'il vient ici, à Sloterdijk qui traite de l'animalité largement. Pour faire métaphore, là je m'excuse d'être net que métaphorique, qu'importe des idéologies, l'homme fait l'animal avec ou sans idéologie, ou même avec n'importe quelle idéologie, l'homme fait l'animal. Le problème, c'est que quand l'homme fait l'animal, qu'est-ce que devient l'homme? Moi, je préfère réfléchir dans les termes de quand l'homme fait, qu'est-ce qui fait société? Parce que ce qui nous distinguera de l'animalité, c'est bien de faire société, c'est-à-dire notre sociabilité. Donc moi, je m'interrogerais plutôt, même si j'accorde que c'est une piste de réflexion, c'est-à-dire le distinguo entre la société animale, les sociétés animales et la société humaine, mais alors moi, je bute sur la question d'évaluation. Qu'est-ce qui fait société, qualité d'une société?
Oui, monsieur.
Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Merci beaucoup. Je vous remercie d'une façon unilatérale, sans attendre un remerciement de votre part. Simplement, nous permettre de nous exprimer, c'est une courtoisie de votre part. Et pour moi, personnellement, c'est une question existentielle, même philosophique, de fait de s'exprimer librement. Je me rappelle, lorsque j'étais gosse, j'étais à l'école primaire, le maître, il avait dessiné un parallélépipède. Il avait écrit en dessous « parallélépipède ». J'ai osé dire au maître « Monsieur, vous vous êtes trompé, c'est pas comme ça qu'il faut écrire ». Non seulement il m'a relégué au fond de la classe, mais aussi il m'a puni et il a fait de sorte que tout le monde soit contre moi. Depuis, j'ai eu de mauvaises notes, etc. J'ai pas osé dire à mon père et tout ça. Bon, c'est resté en mémoire. Comme beaucoup d'autres histoires d'enfance. J'ai compris que, de ces histoires, j'ai compris que la loi de la majorité est une raison relative quant à sa majorité, mais elle n'a pas de raison absolue en soi. L'humain a besoin d'absolu. La relation privilégiée de l'adulte à l'encontre de l'enfance, la relation, le conflit entre les individus d'une façon horizontale, quoique la séparation entre eux, c'est insaisissable.
Pouvez-vous poser votre question, monsieur ?
Et donc, quelle que soit la relation entre les individus, elle est insaisissable et mouvante, donc il faut un plan vertical pour pouvoir donner une raison à cette relation. Et donc, ce plan vertical, c'est la religion.
La question, s'il vous plaît.
Oui, je viens, madame. Je me rappelle de la définition de mon professeur de philo sur la religion, qui veut dire relier, c'est-à-dire un point de repère qui donne un sens à l'être humain. Sans ce point de repère, l'homme souffrirait d'un vide spirituel et donc toute sa vie est absurde. En ce qui concerne...
S'il vous plaît, vous ne pouvez pas garder le micro si longtemps. Alors, je vous demande de poser votre question.
Oui, mais ma question est celle-ci.
Donc, il y a d'autres questions, beaucoup. Oui.
Donc, pour la thèse de la sécurité, Hitler, lorsqu'il a fait son ravage...
Non, je ne peux pas vous laisser le micro, monsieur.
C'est pas sur la schizophrénie.
Vous posez la question tout de suite, s'il vous plaît.
D'accord. Mais je viens, madame. Attendez, s'il vous plaît. C'était le terme de sécurité, c'est en fin de compte, c'est vraiment une variable en fonction de ce vide spirituel. Qu'on soit Front National ou pas, le problème se poserait avec qui que ce soit. Merci beaucoup.
Je vous répondrai que si j'ai été discourtois tout à l'heure, si vous l'avez entendu comme ça, c'est parce que je voulais simplement vous faire remarquer que je voulais rester dans l'objectivité le plus possible, en quelque sorte. Bon. Et donc, si subjectivement, vous avez ressenti ma réponse comme blessante, ben, je vous présente toutes mes excuses, subjectivement. Je vous accorde que si le mot parallélépipède vous est resté dans la gorge, le mot déterritorialisation m'y reste aussi. Donc... Ceci dit, à propos du relatif ou de l'absolu, ma discipline est très relative. Oui.
Allô ?
Oui, s'il vous plaît.
Allô ? Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend.
Voilà, vous avez parlé de rapprochement, de perte de distance entre les gens. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi d'expropriation, du fait que la mondialisation entraîne une expropriation du peuple-objet, par exemple les accidents, les catastrophes naturelles, comme le pétrole, le mazout qui inonde, comme la pollution des mers, et l'homme est obligé de se restreindre de plus en plus à des contraintes de plus en plus énormes qui le coupent de la vie dont il a l'habitude.
Là, je ne peux pas, ça me mènerait trop loin. L'expropriation, c'est évident que c'est un terme important, aussi important qu'appropriation. Moi, j'ai insisté sur l'appropriation avec les excès de l'appropriation dans le monde actuel. L'expropriation, c'est tout aussi important, bien sûr. Ça rejoint l'aliénation.
Je pense aussi aux Indiens d'Amazonie qui perdent du terrain.
Oui, mais effectivement, là, c'est encore un phénomène de périphérie. Ça se paye, la périphérie, là, malheureusement. Bon, j'arrête.
Est-ce qu'on peut parler sans micro, monsieur ?
Non, parce que les autres personnes n'entendent pas. Oui, monsieur, s'il vous plaît. On va vous donner le micro, là.
Monsieur Grésillon, bonsoir. Je voudrais avoir une petite précision. Vous avez parlé du jeu, à un moment donné, dans le début de votre exposé. Vous pourriez préciser, parce que j'aurais peut-être quelque chose à ajouter qui me paraît très important.
Ben, j'ai joué sur le mot « jeu ».
Oui, bon. le jeu au sens ludique.
Non, les deux, double sens.
Le jeu,
vous
le
dites,
soi.
Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Le bois, il travaille ou il joue ?
Oui.
Bon, ben, moi, je pense que pour travailler,
oui.
Les concepts, les catégories, les idées toutes faites, les lieux communs, il faut faire bouger ces choses-là, ces concepts, etc. Or, je pense que ceux qui sont dans le trouble actuellement, ceux qui ne savent pas à quoi s'en remettre, sans repère, qui sont déboussolés, je pense que ces gens-là manquent d'une réflexion sur le jeu. ça joue trop autour d'eux. Ils ne savent pas quel jeu on joue.
Ah,
donc voilà. Bon, effectivement, je joue sur le mot jeu moi-même.
D'accord.
Mais c'est parce que un de mes collègues avait parlé de jeu entre l'écart et le contact.
Oui. Alors là,
actuellement, nous sommes ici ensemble à l'intérieur d'un jeu entre le contact et l'écart.
Oui. Alors là, je vais être très bref. Je me permets de reprendre un peu ce qu'a dit le monsieur avec le catogan, parce que hier soir j'étais chez un copain au Vésinet et j'ai lu un bouquin j'ai lu un livre sur les mammifères marins, bon, et là s'il n'y a pas de tissu social, par exemple les orques, les épaulards ou les dauphins, si on les isole, ils meurent. Donc il y a nécessité de se regrouper sans que cela devienne une contrainte, c'est bien cela.
Oui, madame.
Voilà.
Vous avez terminé par l'agressivité des psychologues. J'ai trouvé votre exposé formidable, mais j'ai pas très bien. La première partie m'a enthousiasmée, mais j'ai pas très bien compris votre conclusion. Vous avez démarré par la notion de repère. Et après, j'ai cru que vous aviez dit on n'aurait plus de repères, la mondialisation, vous avez parlé de politique. En effet, comme monsieur a dit, on parle pas assez de biologique, et vous avez dit j'ai pas du tout parlé de paysage. Alors, d'abord, je vais parler de l'agressivité des psychologues et surtout des psychanalystes. La psychanalyse parle en fait de distance. Il faut savoir quitter ses parents, mais pas aller trop loin. Il faut toujours voir sa maison fumer. Quand vous avez parlé, vous savez, de Montesquieu, j'ai trouvé ça formidable. Il faut quand même garder ses repères familiaux, mais aller au-delà du territoire familial. Il ne faut jamais quitter ses repères familiaux, mais il faut aller voir les autres. Ça, c'est la psychanalyse, c'est ça, c'est une question de distance. Quitter sa famille, toujours l'aimer, mais s'en séparer, sinon c'est l'inceste, etc. Ça, c'est la psychanalyse. Maintenant, non, mais je voulais dire au monsieur que j'avais trouvé la première partie en désaccord avec la première. Alors maintenant, la question que je pose, là, vous me trouvez un petit peu, la question que je pose, c'est le fait que vous ignoriez les paysages. Les paysages créent des mentalités. Un breton, un marin n'est pas le même qu'un montagnard. Et le général de Gaulle, après la guerre, a refusé que l'Italie du Nord, pays d'Ost, qui voulait être français, ça veut dire qu'ils aimaient les Français, étant donné qu'ils n'avaient pas la même géographie, qu'ils allaient avoir des barrages mécaniques, il a refusé donc que ces Italiens du Nord soient français. Il ne faut pas oublier, malgré tout, les paysages qui font des mentalités et qui font que les gens ne peuvent pas se mélanger comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est raciste, au contraire, puisqu'on va aller... Le goût du voyage, maintenant, va être complètement perdu avec la mondialisation. Aller voir les autres, c'est les aimer. Maintenant, comme a parlé monsieur, si le racisme se développe, on ne va pas aller voir les autres. Il y a une identité géographique.
Oui.
C'est pas une question, c'est une remarque.
Le professeur Grésillon va vous répondre.
Ou j'ai pas compris la fin de votre exposé par rapport au début.
Voilà. Le professeur Grésillon va vous répondre.
Je m'excuse, je ne peux pas répondre à cette... Je vous propose qu'on aille discuter sur le thème de la distance après, parce que je ne peux pas revoir tout mon fil directeur. J'espère que mon fil directeur avait une certaine cohérence. J'en avais un.